Seigneur, je te remercie pour ta présence qui est là encore ce matin, Seigneur. Puis elle est là à chaque jour, mais quand on est rempli du Saint-Esprit avec les frères et sœurs, ça nous bénit, puis on est heureux, puis ça nous fait du bien, puis en même temps, mais tu nous donnes tes guérisons, tes restaurations. Tu parles à nos cœurs, tu nous donnes tes directions. Merci pour d'agir au mieux de nous, Seigneur. Tu t'occupes de tes enfants comme tu l'as promis dans ta parole. On te remercie encore pour toutes l'enseignement qu'on va avoir encore ce matin. Merci pour ta révélation, ta connaissance de ta parole que tu nous donnes, pour qu'on puisse la saisir par la foi, puis obtenir tes promesses. Puis merci de ce que tu vas faire encore au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On est en train de continuer la mini-série de saisir les promesses de Dieu. Puis ce matin, on a un sujet que je pense que tout le monde n'a besoin. De saisir les promesses de Dieu pour la guérison.
Amen.
Est-ce que Dieu y avait prévu de nous guérir? Parce qu'on le sait que Jésus est venu voilà 2000 ans, il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Puis souvent, on parle beaucoup du salut, la foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour avoir la vie éternelle. Mais est-ce que dans l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection, Dieu prévoyait d'autres bénédictions qui découlent du pardon des péchés, de ce qu'on pouvait recevoir en Jésus-Christ. Dieu a-t-il prévu un moyen de restaurer la santé des gens? C'est ça qu'on va regarder ce matin. On est ici pour parler de foi. On n'est pas dans une clinique médicale en train d'attendre à l'urgence pour se faire parler quel médicament je vais prendre pour être guéri. On est ici pour parler de foi, pour entendre des choses sur la parole de Dieu. On est tous comme à l'urgence d'un sens. On attend. On attend à quoi? On attend les réponses de Dieu pour nous guérir. Parce que Dieu a plus que juste le pardon. Merci Seigneur pour son pardon qu'il nous a offert en Jésus. C'est bien important de rendre gloire à Dieu tous les jours de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur qu'on est sauvés. Mais le Seigneur a encore beaucoup d'autres avantages ou bénédictions qu'il veut déverser sur chacun de nous. Il faut saisir ses promesses par la foi. C'est ça qu'on va parler. On va parler de foi. La foi qui saisit des promesses pour être guéri. Pour arriver à une foi comme les apôtres. Mais les apôtres, là, c'est veut pas, ce qu'on lit dans la parole de Dieu, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, ce qu'ils ont vécu, vivaient la vie de la foi. Regardez l'exemple de la vie de l'apôtre Pierre, les miracles à Jérusalem suite au le baptême du Saint-Esprit répandu, puis après ça, des foules nombreuses qui étaient là venir entendre la parole, puis les gens étaient guéris. Il y en a que dans leur vie de foi, ils passaient, puis l'ombrage touchait un malade, puis le malade était guéri. Puis un autre dans la vie de Paul, c'est un mouchoir que Paul avait touché, puis il passait le mouchoir, puis les gens étaient guéris, puis les démons sortaient. Par le mouchoir, c'est pas que Dieu voulait qu'on rende un culte au mouchoir, mais le point est, c'est la foi en Jésus-Christ et les miracles qui l'accompagnent. Puis Dieu veut le faire encore, il veut qu'on imite ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. C'est qui ça, ces gens-là qui sont notre exemple de gens qui ont hérité des promesses puis qui ont vécu les promesses? C'est ceux qu'on voit dans la parole de Dieu. Il y a une nuée de témoins dans la parole de Dieu. Des exemples donnés de personnes qui ont vécu des exaucements de prières, des guérisons, des délivrances, la puissance de Dieu en action, quoi. On est là pour apprendre à connaître ce que les apôtres vivaient, puis être capable de s'exprimer comme eux, avec la même foi à l'intérieur. Dans 2 Corinthiens 4, 13, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, ça c'était dans l'Ancien, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. On est là ce matin, premièrement, pour croire. Une fois que tu as saisi cette foi-là en dedans de toi, saisi la foi en la parole de Dieu, là, tu vas commencer à ouvrir la bouche puis à parler. C'est ce que les apôtres faisaient. Ils avaient compris, premièrement, dans leur cœur, ils avaient la foi pour saisir la parole de Dieu. Après ça, ils ouvraient la bouche puis ils proclamaient la parole de Dieu. La base de notre foi pour la guérison, la base de notre foi pour notre guérison en Jésus-Christ est basée sur des prophéties de l'Ancien Testament que Jésus porterait nos péchés et nos maladies en sa mort. C'est pas juste pour les péchés qu'il est mort, c'est aussi pour les maladies qu'il est mort. Dans Isaïe 53, le verset 4, ça va à peine d'aller, mais ils valent toute la peine d'aller le lire, mais je veux principalement que vous y alliez lire ce passage-là, parce que ça nous parle d'une prophétie de Jésus-Christ, puis qu'est-ce que Jésus-Christ viendra faire en tant qu'homme sur la terre? Ça s'est accompli, cette parole prophétique-là, quand Jésus est venu. Puis c'est beau de voir ça, que Dieu a annoncé d'avance précisément ce que Jésus était pour venir faire. Isaïe 53, le verset 4. Mais chez vous, vous pourrez lire de 1 à 12, mais là, aujourd'hui, nous, on va s'arrêter sur 4 à 5. Ça parle de Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, dans ce passage prophétique-là, qu'on va voir un peu plus loin, que ça s'est accompli quand Jésus est venu, les apôtres ont pris le même passage, parce que on voit, ils ne sont pas allés le lire tout de suite, que les disciples, là, ils avaient compris que l'envoi de Jésus, c'était pour accomplir des prophéties de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 8, le verset 16, ça nous dit, « Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. » Ça, c'est des gens qui sont attaqués par les esprits. « Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » C'est 8, 16 et 17. Voyez-vous qu'est-ce que les disciples pensaient quand ils avaient vu Jésus en train de guérir tout le monde? Il a dit, c'est en train d'accomplir ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités puis il s'est chargé de nos maladies. Jésus est pas venu juste mourir sur la croix pour pardonner nos péchés. Ça, c'est une partie de son œuvre, de ce qu'il est venu faire. Il est venu aussi prendre nos infirmités puis il s'est chargé de nos maladies. Quand les gens allaient à Jésus, ça nous dit, tous les malades étaient guéris. Si on voit ça au verset 16. Il guérit tous les malades. Tout le monde qui allait à Jésus était guéri. Puis c'était basé sur le passage qu'on a lu tantôt, Isaïe 53, ça dit, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est quoi ces souffrances? Y a-tu quelqu'un qui souffre, ça? Qui a mal dans son corps? Qui a mal dans son âme? Il y en a. Il n'y a pas juste une, deux, trois personnes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont mal. Puis notre premier réflexe, quand on a mal, on s'en va tout de suite à l'hôpital. Pourtant, nous devrions être les premiers à savoir que Jésus, il s'est chargé de nos souffrances, il les a portées sur la croix. Ça nous dit aussi, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos souffrances, nos douleurs. T'as mal à quelque part, Jésus s'en est chargé de ton mal. Au verset 5 de Isaïe, ça nous dit, il était blessé pour nos péchés et nos iniquités. Puis ces meurtrisseurs, par ces meurtrisseurs, par ces souffrances, nous sommes guéris. quand que Jésus est mort, c'était pour expier péché. Quand il a souffert, c'était pour payer pour nos souffrances. Il a souffert par ses meurtrisseurs. Des meurtrisseurs, savez-vous c'est quoi? Des bleus, communément appelés en français, ici au Québec. Tu t'es cogné, t'es un bleu. C'est un meurtrisseur. Jésus était battu de verge, frappé à coups de poing, claqué, fouetté. Ils ont mis une couronne d'épines. Ils l'ont humilié. Mais toutes les souffrances qu'il a vécues, c'était pour vous remplacer toutes vos souffrances pour que vous puissiez être guéri de vos souffrances. Son œuvre de souffrance, c'était pour se charger de prendre notre place pour nos souffrances, nos douleurs. C'est ce que ça nous dit au verset 4. Douleur, souffrance, c'est meurtrisseux, ça nous donne d'être guéri. Fait que Dieu a une vision bien plus loin que juste pardonner les péchés, puis nous, il faut saisir ces promesses-là. Il faut saisir la vision de Dieu. Dieu a un plan pour vous restaurer entièrement et s'occuper de votre corps et de votre âme, de votre esprit, pour tout le reste de votre vie. Il ne veut pas juste pardonner vos péchés, il veut être celui qui prend soin de vous tous les jours. Jésus lui-même, quand il est venu, là, quand il a commencé son ministère, une de ses premières prédications qu'il a faites, il a pris un passage de l'Ancien Testament, puis il a prêché devant l'assemblée où ce qui était, dans Luc 4, 18, qu'on voit ça. Puis Jésus a pris un passage de l'Écriture en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça veut dire que Dieu veut faire des guérisons dans l'âme des gens. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça, c'est la guérison du corps. Jésus est en train de confesser qu'il avait reçu l'onction dans le but de guérir l'âme, guérir le corps, proclamer la bonne nouvelle, puis de renvoyer libres les opprimés, puis pour publier une année de grâce, un temps de grâce, un temps où la bénédiction de Dieu va couler sur cette terre. Puis c'est commencé il y a 2000 ans, puis c'est encore actif, valide aujourd'hui. Dieu veut s'occuper de l'état de votre âme et de votre corps. Excusez, j'ai un petit rhume, puis il va s'occuper de ma voix. Amen. Gloire à Dieu. Il faut le confesser, c'est ça qui est le point. Le premier verset, je vous ai dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est ce que de même qu'un disciple parle. Un apôtre, l'apôtre Paul, lui, c'est comme ça qu'il parle. Je crois, je parle. Nous croyons au verset de la parole de Dieu, nous les confessons. Oui. Jésus, après ça, il a envoyé les 12 apôtres avec le même mandat que lui. Fait qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Puis Jésus, après ça, il a donné l'onction à ses disciples, aux 12. Il leur a donné l'autorité, le pouvoir. Puis il les a envoyés pour faire quoi? Dans Matthieu 18, il leur dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. » Donner gratuitement. Fait que Jésus avait cette onction-là, puis guérissait toute maladie, toute infirmité. Il l'a distribué à ses apôtres, puis ses apôtres sont partis, puis ils faisaient la même chose. Ils ont même ressuscité des personnes mortes. Ensuite, ça s'arrête-tu là? Non, il y a un ensuite après. Les 70 qui ont été envoyés, 70 évangélistes qui ont été envoyés pour évangéliser, quel mandat qu'ils ont reçu du Seigneur? On voit ça dans Luc 10, le verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le mandat du Seigneur, c'est d'envoyer. Il avait reçu l'onction pour le faire. Après ça, il a envoyé les 12. Après ça, il a envoyé les 70. Puis après ça, il y a encore un ensuite. Ah oui? Chaque disciple aussi a reçu le même mandat de prier pour les malades. Où est-ce qu'on voit ça? Dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui croit, qui est prêt à confesser que la parole de Dieu nous dit, il nous envoie à prier pour les malades. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça fait-tu partie de la Bible, ces versets-là? Ah oui, c'est dans ma Bible puis c'est dans la tienne. Gloire à Dieu. Dieu est en train de nous révéler quelque chose ce matin. Il y a une œuvre de salut, parce que la bonne nouvelle, c'est le salut. Premièrement, on est là pour annoncer le salut. C'est accompagné de guérison. Guérison de notre âme. Y en a-tu qui ne savent pas de quoi est-ce que notre âme peut souffrir? C'est quoi qu'on parle quand on parle de guérison de notre âme? Y en a-tu des fois qui sont obligés d'aller consulter un psychologue? Des dépressions. Il y a des dépressions qui sont dues parce que t'as un problème de chimie, t'as un problème physique qui peut te donner d'être sur un down. Mais il y a des problèmes aussi de la manière qu'on pense, de la manière qu'on réfléchit, nos émotions, nos blessures. Des fois, c'est du non-pardon. Des fois, c'est des blessures qu'on a vécues dans notre enfance, puis on traîne ça toute notre vie, puis ça nous fait mal. Mais peut-être qu'il y en a qui ont été abusés sexuellement, puis sont traumatisés pour toute leur vie avec ça. Leurs âmes est blessée. Il n'y a pas juste le corps qui est blessé. L'âme aussi peut être blessée, puis on traîne des blessures. Jésus est venu, parce qu'on a une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Puis il est venu pour guérir aussi le corps. Même si t'es né aveugle, il en a guéri des aveugles. Il a guéri des boiteux, des paralytiques, des infirmes, une main. Dieu est capable de guérir n'importe quoi. Il n'y a rien qu'il n'est pas capable de faire. Imaginez-vous là qu'il a créé l'univers juste en disant que ça soit là, puis ça a été fait, ça a apparu. Il a juste besoin de le dire, puis l'univers, l'immensité de l'étendue de l'univers, il a créé ça comme ça. Es-tu capable de s'occuper de nos problèmes? Oui, il est capable. Puis c'est même dans son plan, puis c'était même annoncé d'avance qu'il était pour le faire. Gloire à Dieu. Pour obtenir les promesses de Dieu, ce n'est qu'une question de foi aux promesses. Faut que tu y crois. Il y en a dans le temps de Jésus que la parole de Dieu ne leur servit de rien parce qu'ils ne croyaient pas. C'est tout simplement ça. C'est quand tu décides de mettre ta foi, tu crois à ce que Dieu a dit, Dieu l'a promis, puis Dieu va le faire. Puis là, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Là, tu te mets à parler, à confesser ce que tu crois. Qu'est-ce que ça nous dit dans Actes 3:12? Un exemple de cela. Pierre, voyant cela, il dit au peuple, là, parce que là, il venait il y avait une personne boiteuse qui était là, il a dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Là, la personne s'est levée, puis elle glorifiait Dieu, ça a amené des foules. Puis là, tout le monde qui était là, il y avait comme une agitation, la foule était là, puis là, Pierre lui dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété qu'on aurait fait marcher cet homme? Tout le monde regardait Pierre et Jean, probablement, je ne le vois pas, mais Pierre et Jean, ils étaient là, tout le monde était attentif. « Hey, as-tu vu ces gars-là? Ils viennent de ramener ce gars-là qui était là depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui était assis à la porte, puis il quêtait parce qu'il ne pouvait pas gagner son pain, puis il pouvait, pour survivre, il fallait qu'il vive de ce que le monde pouvait lui donner. Fait que là, quand il a reçu sa guérison, là, tout le monde était étonné, puis il dit, « Wow, ils sont puissants, ces gars-là! » Suite, l'humain pense que c'est à cause d'un... C'est des êtres surnaturels. C'est des dieux qui sont venus parmi nous. Puis là, il lui a dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance ou par notre piété? Le verset 16, il répond encore, Pierre, il dit, c'est par la foi en son nom, en parlant de Jésus, c'est par la foi en Jésus que son nom, j'ai le nom de Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Mais voyant que le gars il est croyant, Pierre, j'ai pas d'argent, parce qu'il voyait qu'il avait la foi pour être sauvé. Lui, il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, j'ai rien, mais ce que j'ai, c'est la foi en Jésus. Puis je crois que Jésus peut te guérir. Puis là, il a dit, lève-toi et marche, au nom de Jésus-Christ. Puis il dit, c'est en la foi en son nom, que ça a donné le pouvoir à cette personne-là de se relever. Puis merci Seigneur, parce que la gloire, elle va à qui dans tout cela? C'est à Dieu, par le nom de Jésus. Fait que les deux sont glorifiés. Ce qu'il faut réaliser, ça fait partie du plan de Dieu qu'on voit des guérisons dans le nom de Jésus. Écoutez bien le prochain verset. La Bible dit que seuls les incrédules se battent avec le Seigneur pour ne pas être guéris. Il y a juste les incrédules qui se battent avec le Seigneur pour ne pas être guéris. Ouch! Dans Actes 28, 27. On va aller lire ce passage-là. Parce qu'il faut sortir de l'incrédulité. Il faut arrêter de douter. Il faut arrêter d'être incrédule. Il faut se mettre à avoir la foi. Il y a juste les incrédules qui ne veulent pas être guéris. Ils ne veulent pas que le Seigneur fasse de quoi dans leur vie. Actes 28, 27, il y avait des gens comme ça, même dans ce temps-là. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur oreille. Ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dieu, son désir, c'est de guérir toute la nation juive. Pas juste pardonner le péché. Dieu voulait prendre soin de leurs âmes et de leur corps. Il veut les guérir. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce passage-là? Ça dit que les gens qui écoutaient la parole, qui étaient les Juifs, la parole de Dieu leur avait été adressée à eux en premier. Les Juifs, ils ont endurci leur cœur, sont devenus insensibles, ils ont fermé leurs oreilles, fermé leurs yeux, de peur qu'ils voient, puis qu'ils entendent, puis qu'ils comprennent, puis qu'ils se convertissent, puis qu'ils reçoivent la guérison de Dieu. Faut que tu sois vraiment incrédule pour continuer à résister contre l'appel de Dieu qui veut prendre soin de toi et te guérir. Dieu veut nous sauver, il veut nous guérir dans notre âme, dans notre corps, puis il faut que tu sois incrédule, faut que tu ailles fermer tes yeux pour pas vouloir qu'il le fasse. À tout bout de champ, dans notre vie chrétienne, on a entendu qu'il y a des gens qui ont été exaucés dans leurs prières. Une guérison ici, une guérison là. On entend régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont la foi puis qui ont obtenu des bénédictions de Dieu. Mais est-ce seulement pour quelques privilégiés? Dieu veut le faire à tout le monde, même à tout le peuple juif. Il dit, Jésus était ému de compassion, voyant comme c'était une foule qui était languissante, puis qui, comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Jésus, il dit, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? C'est le cœur de Dieu, c'est de vouloir guérir tout le monde. Là, à cette heure, ce qu'il faut arriver, c'est une fois que tu as accepté Jésus, ben je le sais, je vous pointe pas personne, mais je le sais qu'il y a du monde qui ne croit pas en la guérison. Il y en a des églises qui parlent contre et disent « Ah, oh, ça, c'était dans le temps de Jésus. » Combien de bénédictions qui passent à côté? Ils pensent que c'était juste dans le temps de Jésus. Ils veulent pas de dons spirituels, ils veulent pas de guérison. Ils croient pas que Dieu peut agir encore aujourd'hui. Puis s'ils voient et entendent parler d'une guérison, ils vont dire « C'est le diable. » C'est vrai que le diable peut en faire pour tromper les gens. Des miracles, des faux miracles, il y en a. Mais il y a des vrais miracles aussi encore. Dieu, il est pas mort. À moins qu'il ait été mort et qu'on ne l'a pas entendu. Je pense pas qu'il soit mort. Y en a-tu qui pensent que Dieu est mort? Non, Dieu est encore pleinement vivant, puis il est encore pleinement capable d'accomplir sa parole qu'il a prononcée, puis qu'il a l'intention de la faire à tous ceux qui ont la foi. Amen. Dieu veut le faire encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Quand est-ce que ça va arrêter? Lorsqu'il y aura l'enlèvement. La porte de la grâce va être fermée. C'est à ce temps-là, il y a encore du temps ici, ce que Dieu veut nous rejoindre, puis nous guérir, nous délivrer, nous changer. Il veut nous transformer, il veut prendre soin de nous comme un père prend soin de ses enfants. C'est naturel, c'est correct. Il y a des passages qui nous parlent de guérison dans le Nouveau Testament, là, qui parlent pas nécessairement du mot « guérir », mais que Dieu nous appelle à nous bénir entièrement dans tout notre être. Les promesses que Dieu veut que ça y aille bien dans notre vie. Dieu, il veut pas sauver l'humanité pour les voir souffrir dans leur cheminement terrestre. Il sait qu'on va en avoir des souffrances, mais il s'offre de nous soulager, nous guérir, nous délivrer, nous faire du bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est du repos que Dieu veut nous donner. Un repos pour notre âme. Il veut que notre âme arrête de souffrir. Il veut que notre corps arrête de souffrir. C'est-tu vrai? Il y a des versets dans le Nouveau Testament, comme dans Jean 10:10. Ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, tout de suite, il y en a qui viennent croche, l'abondance, puis on a peur de parler la doctrine de la prospérité, qu'une fois que tu es chrétien, tu vas devenir prospère, tu vas devenir un riche homme d'affaires, puis si tu n'es pas de Dieu, ben, tu ne l'auras pas, mais si tu es de Dieu, tu vas l'avoir. Ça, il y a une exagération. Mais Dieu veut que tu sois quand même dans l'abondance, paix intérieure, joie par le Saint-Esprit, béni, dans ton âme, tu reçois tes guérisons, dans ton corps, t'es soulagé, t'es guéri, t'es délivré, puis Dieu t'amène à ce que tu puisses être libre de plein d'affaires qui te nuisent dans cette vie, puis que tu puisses ouvrir la bouche avec un élan de joie pour dire, gloire à Dieu, merci Seigneur, il répond encore mes prières aujourd'hui. Dieu veut que t'aies la vie. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Mais le diable est là pour dérober, égorger et détruire. Fait que la destruction qu'on subit, plus souvent qu'autrement, vient du diable. C'est lui qui égorge, c'est lui qui détruit, puis c'est lui qui vole. Il vole quoi, en fin de compte? Êtes-vous déjà posé la question? Il est venu pour voler. Il veut voler quoi? Nos bénédictions. Juste le fait, comme qu'il nous dit dans un passage, j'ai dit que la semence est semée le long du chemin, puis là, les oiseaux du ciel viennent et enlèvent la semence. Puis là, il dit ça, c'est le diable qui vient, qui enlève la semence qui a été semée. C'est qui le voleur dans tout ça? C'est ces oiseaux du ciel-là qui viennent enlever les promesses des versets de la Bible que ces gens-là ont reçus pour pas qu'ils se convertissent. Puis quand c'est rendu que c'est les chrétiens qui se font voler des promesses, puis ils réclament pas les promesses parce que ils ont oublié, parce que le diable est venu puis a enlevé ben des idées puis a mis toutes sortes de mauvaises idées. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On sait plus quoi faire quand on est malade, on n'ose pas prier, on est même pas sûr que Dieu pourrait nous exaucer. Fait qu'on va tout de suite voir le médecin sans le demander à Dieu. Bien, c'est sûr que le doute est semé encore par l'ennemi. Un autre verset dans Romains 8 au verset 11, ça nous dit, on en a parlé un peu dans les louanges, « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. » Qu'est-ce que ça veut dire, nous rendre la vie? C'est sûr qu'il va nous ressusciter à la fin. Ça se peut-tu aussi que ce verset-là peut se dire qu'il va nous vivifier dans notre vie terrestre, nous guérir, nous transformer, nous délivrer, nous soulager? Quand il est appelé le consolateur, qu'est-ce que ça l'aurait comme synonyme? Console? Qui a besoin d'être consolé? Ceux qui ont de la peine, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui pleurent, leurs âmes est brisée, le cœur est brisé. Le consolateur, c'est le spécialiste des consolations. Il veut te faire du bien. Il veut te relever. Il veut te dire des paroles, puis il veut te faire une touche pour que tu te sentes rafraîchi, restauré. C'est les temps de rafraîchissement qui doivent venir de la part du Seigneur. Quand est-ce qu'on reçoit ces temps de rafraîchissement? Le plus souvent qu'on en reçoit, c'est quand on va à l'église. Quand on se repent. C'est sûr que quand c'est dû à un péché, il faut premièrement régler ça. On va en parler un petit peu plus loin. Mais les restaurations, il dit, ça nous dit qu'il est bon, qu'il est agréable, que des frères demeurent ensemble. C'est comme l'huile qui descend. La rosée qui descend de la montagne de l'Hermon. Il dit, c'est là, parmi les frères et sœurs, que l'Éternel, là, Dieu, il répand sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand les frères et sœurs sont ensemble, c'est là que Dieu déverse ses temps de rafraîchissement. Ton âme, on sort toujours d'une réunion restaurée. Puis si on ne sort pas d'une réunion restaurée, si on n'a pas senti rien, c'est pas la faute du pasteur qui est en avant, c'est pas la faute des musiciens, c'est pas la... Il y a une seule personne que... C'est à vous-même à regarder, à sonder votre cœur, à regarder ce qui s'est passé, parce qu'on est tous en train de venir s'abreuver à l'Esprit de Dieu, présentement. On sont tous abreuvés, puis on a été désaltérés. Quand tu bois, qu'est-ce que ça fait? Tu vas donner une eau que tu n'auras plus besoin, tu n'auras plus soif, que ça nous a dit un matin. Il veut rendre la vie à notre corps mortel, parce qu'on est un corps qui est toujours porté vers... la souffrance, puis des blessures, puis la mort. Il veut nous rendre la vie. Il veut nous vivifier par son esprit qui est en nous. Puis un jour, il va avoir le sceau là-dessus quand on va le retrouver à l'enlèvement, on va être sur un nuage. Mais là, c'est final, n'aura plus de souffrance. Ça va être accompli dans l'ensemble de notre être. Puis ça revient, on ne reviendra plus là-dessus. Oui. Oui. Les apôtres avaient comme vision... que les brebis du Seigneur doivent être en bonne santé. Pas juste se préoccuper de leur état spirituel. Sont-ils sauvés? Oui, ils sont sauvés, parfait. Une fois que tu es sauvé, c'est quoi la préoccupation d'un pasteur? Il veut voir les brebis en bonne santé. Il veut qu'on y aille bien. Quelqu'un qui a un cœur de pasteur, il veut que ses brebis, les pas ses brebis, les brebis du Seigneur se portent bien. Ouais. Fait que dans un particulièrement qui a un cœur de pasteur, parce que c'est l'apôtre de l'amour, lui, dans son épître, la troisième épître de Jean, le chapitre 1, le verset 2, mais il n'y a rien qu'un chapitre. On voit le cœur d'un apôtre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans ce verset-là, on voit que la vision des apôtres, en réalité, c'était les bergers, les surveillants, ceux que Dieu avait établis sur les brebis, ces gens-là se préoccupaient non seulement que ça y aille bien spirituellement, parce que ça dit, comme prospère l'état de ton âme, mais je veux que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Fait que c'est dans le plan de Dieu, c'est dans la vision de Dieu de vouloir rendre les brebis en bonne santé. Parlez-moi de, si ça existe, je ne sais pas, là, je pose une question. Un berger qui garde des moutons. Un berger qui garde un troupeau de moutons. Y a-tu du plaisir quand il voit que ses brebis sont blessées? Le premier réflexe qu'il veut faire, c'est quoi? C'est de la soigner, sa brebis. Pensons-nous que le Seigneur pense pas comme ça? Le Seigneur veut nous soigner la même chose qu'un berger voudrait soigner ses brebis.
Il n'est pas un mercenaire.
Hein?
Il n'est pas un mercenaire.
Non, lui, non. C'est le bon berger. Maintenant que vous savez que Dieu veut nous guérir dans notre être tout entier, est-ce que vous y croyez que Dieu veut nous guérir dans toute notre être tout entier? Vous avez accepté Jésus-Christ? Vous êtes ses brebis? Il veut que vous soyez dans l'abondance. Il veut que vous rendre la vie à votre corps mortel. Puis en plus de ça, il veut que vous soyez en bonne santé. C'est ce qu'on voit dans certains passages. Comment parvenir à être guéri maintenant? Il y en a-tu qui veulent l'être? Mais il y a trois sources pour les maladies. Pour comprendre ça tout en partant. Il y a les maladies naturelles. On est né avec des génétiques défaillantes. Des fois, on peut venir au monde avec des maladies, un membre qui ou un corps blessé, ou je sais pas, moi, il manque des bouts, ou tu as des maladies, tu réagis au sucre, puis là, il ne faudra pas que tu en prennes. Puis là, tu as des problèmes, des défectuosités dans notre système, puis il y a le cycle du vieillissement qui nous occasionne d'autres problèmes. La garantie est bonne jusqu'au début, après ça, tu n'es plus sans garantie. Mais tu as des maladies. À cause de quoi qu'on a des maladies naturelles comme ça? Parce qu'on n'a pas accès à manger de l'arbre de vie qui nous aurait guéri. Là, vu qu'on est privé de l'arbre de vie, qui était dans le jardin d'Éden, notre corps est voué au vieillissement, aux problèmes, puis même à en mourir. Ça fait partie de ce qu'on ne peut pas éviter. Il y a aussi les maladies qui viennent des attaques du diable. Jésus a chassé beaucoup de mauvais esprits, que ces personnes-là étaient malades à cause des mauvais esprits. Comme une femme courbée depuis 18 ans, il a chassé les mauvais esprits, puis la femme s'est redressée. Il y en a d'autres, une perte de sang, c'est des guérisons directes, mais des attaques du diable, ça c'est la perte de sang, il ne dit pas qu'il y avait un esprit, donc c'est une maladie naturelle, une défectuosité dans son système. C'était pas parce qu'elle était plus grande pécheuse qu'un autre, pécheresse. Les personnes sont malades, puis on n'a pas à juger, lui, si c'est un démon qui est après lui, ou si c'est parce qu'il a péché. Ou il y a des maladies même qui viennent de Dieu. Dans certains passages, Paul, il a dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes malades et d'autres sont morts. C'est des jugements du Seigneur. Une fois que tu es chrétien, tu peux pas vivre n'importe comment. Puis Dieu, des fois, il serre la vis dans notre vie. Puis il nous fait vivre des choses pour que tu rajustes ta vie conforme à sa parole, puis tu vas avoir des problèmes, des maladies, des souffrances. Eux autres, c'est un jugement du Seigneur direct. Ils sont tombés raides morts là, en parlant d'Ananias et Saphira. Mais il y a des maladies, en tout cas, qui sont naturelles. Il y en a qui sont des attaques du diable, puis il y en a qui viennent de Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Peu importe la source de ta maladie, la seule solution, c'est d'aller à Dieu. Peu importe à cause de quoi que tu es malade. C'est des fois, on dit, ah ben là, je suis malade à cause d'un péché, je suis gêné d'aller à Dieu. Non, même si ça sera à cause d'un péché, va à Dieu. C'est le trône de la grâce. Aller à Dieu, c'est d'aller au trône de la grâce. On en a parlé un peu un matin dans Hébreux 4:16, allez voir dans quoi je vais l'emmener. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça, ce verset-là, il est profond. Parce que il y a des éléments là-dedans qu'on parle pas souvent. Je m'approche premièrement du trône de Dieu avec assurance. Ça veut dire qu'il faut que j'aie confiance que je peux m'approcher de lui. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout accompli pour que j'aie un accès direct à pouvoir m'approcher auprès du trône. Pas dans mes mérites, dans les mérites de Jésus, à cause du nom de Jésus. Qu'est-ce que je vais obtenir la première chose quand je m'approche de ce trône-là? Je vais obtenir miséricorde. Non. Savez-vous ce que ça veut dire, le mot grec miséricorde? C'est une sensibilité envers ceux qui souffrent puis vouloir les secourir. Tu t'approches du trône de Dieu dans le but que Dieu soit sensible à ta souffrance puis que Dieu ait à cœur de te secourir. On ne parle jamais de ça. On s'approche de Dieu. Dans le nom de Jésus, c'est moi qui décide. Non, c'est pas toi qui décide. C'est vrai que si Dieu te dit ça, là tu le dis. Mais sinon, à la base, tout le monde sont invités, quand t'es malade, va au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Faut que tu reçoives la faveur de Dieu, que Dieu ait à cœur de te guérir. T'arrives pas là, Moi, là, j'en ai fait pas mal, puis Dieu, tu vas me guérir. On en a parlé un matin. Quand on nous a dit, c'est avec humilité qu'on s'approche du trône de Dieu. Tu as l'assurance que tu as le droit de t'approcher parce que Jésus t'a donné cet accès-là. Mais tu n'es pas un pète les bretelles. Tu dois être avec humilité. Si j'aurais de quoi demander à mon père, là, bien d'important, là, père, j'aurais besoin de ça. Tu dis, hey, le père, tu vas me donner ça. Non, c'est pas de même que je vais recevoir quelque chose. Surtout pas si mon père, il est le moindrement autoritaire. C'est une claque que tu vas recevoir, pas d'autre chose. Mais si tu arrives, père, j'ai besoin de ton aide. J'aurais besoin que, là, tu y dis ton affaire. Si tu veux, tu sais, là, tu y parles dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il va faire ton père? Il va te regarder avec compassion, puis il va te dire, qu'est-ce que tu as besoin, mon fils? Puis il va te le donner. Parce que tu y vas par en dessous. Mais il faut s'approcher du trône de grâce. On veut être guéri. Dieu veut guérir. C'est les gens qui s'approchaient de Jésus, c'était des gens qui souffraient. C'était pas des gens qui se pétaient bretelles puis qui se pensaient bons. Ceux qui se pensaient de même, il n'y avait rien du Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux puis il fait grâce aux humbles. Il veut qu'on s'approche de son trône parce qu'on le sait que de ce trône-là, on peut recevoir, selon l'accomplissement des versets, on peut recevoir la guérison dans notre âme, dans notre corps. Dieu veut s'occuper de nous. Si on y va de la bonne façon, Dieu va nous exaucer. Parce que c'est le cœur de Dieu de prendre soin de ses brebis. Puis ça nous dit, tu vas obtenir miséricorde, puis tu vas trouver grâce. Dieu va avoir une compassion parce que tu t'es approché de lui dans la bonne façon, puis il va te donner un cadeau. Tu vas obtenir grâce, tu vas croire dans la grâce. Toute notre vie chrétienne, on grandit dans la grâce. C'est des cadeaux que Dieu donne tout le temps. Tu as la grâce d'être sauvé, c'est un cadeau d'être sauvé. Mais les guérisons, c'est toutes des cadeaux. Puis Dieu, quand il se met à donner un don à quelqu'un qui a le don des guérisons, fait que là, il donne des cadeaux à tout le monde. C'est un don extraordinaire. Mais en attendant qu'on a vu qu'on l'a pas, ce don-là, en action ici, on peut tous s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, de recevoir nos cadeaux afin d'être secourus, pour être secourus dans nos besoins. Quel est notre besoin ce matin? Tu souffres dans ton âme, c'est un besoin, puis tu as le droit de le demander. Tu souffres dans ton corps, c'est un besoin, tu as le droit de le demander. C'est des besoins. Dieu veut nous secourir, puis il veut nous guérir, puis il veut nous faire du bien, puis il veut qu'on soit dans l'abondance, qu'il veut donner la vie à nos corps mortels, puis il veut qu'on soit en bonne santé. On le croit-tu? Ce qu'on ne doit pas confesser lorsqu'on veut une promesse. Je vais vous lire rapidement ces deux passages-là. Vous rappelez du peuple juif? À quel moment que le peuple juif attendait un libérateur pour les sortir de l'esclavage qu'il était? Quand il était en Égypte, dans l'esclavage, il était en souffrance, puis il était maltraité, opprimé. Puis il faisait de la brique avec de la paille, puis de la boîte, puis à piloter de la boîte, puis à faire des blocs en boîte avec de la paille dedans, pour faire des briques. Puis là, le pharaon, il a rempli rap. Dieu a envoyé Moïse pour aller les chercher. Mais la promesse de Dieu qui devait s'accomplir à ce moment-là, c'est une promesse que Dieu avait donnée à Abraham, qui était 400 ans avant. Hein? Dieu a dit à Abraham, ta descendance, là, j'y donne tout ce pays-là. Là, il l'a fait marcher là-dedans, puis il dit, marche, là, puis tout ce territoire-là, je vais le donner à ta descendance. Quand il est venu le temps pour que ça soit l'accomplissement de cette promesse-là, Dieu a envoyé Moïse aller parler au peuple d'Israël, puis il dit, là, Dieu m'envoie pour, je vous sors d'ici, Dieu, il veut vous sortir d'ici, c'est Dieu qui parle, je vous sors d'ici, puis je vous emmène dans la terre promise. Sur le coup, c'était rough, là. Il y a de la résistance. Les Égyptiens voulaient pas laisser partir le peuple. Imaginez 1 million d'esclaves dans le territoire. Ça commence à faire du monde, ça, là.
C'est beaucoup.
Ils sont, c'est du job, des jobs, ça va créer de l'emploi, mais à quelque part, ça va manquer, on va manquer de main-d'œuvre. Puis là, à plusieurs moments, dans leur marche se rend, Dieu lui disait qu'on s'en va dans tes promises. Je vais vous donner la promesse que j'ai faite à Abraham. C'était promis, cette promesse-là. C'est juste l'histoire. On va l'avoir, on s'en va là. On y croit que Dieu est en train de nous la donner. Puis dans Lévitique 20-24, là, il est en train de dire, « Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez le pays, leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples, qui ont été mis à part, choisis par Dieu comme peuple, pour être un peuple qui représente Dieu. Puis Dieu voulait les bénir, puis leur donner la terre promise. » Puis c'était répété à plusieurs reprises. Puis, mais, parce qu'il y a un gros mais, il était arrivé à la porte, là, de recevoir la promesse de Dieu. Il était pour la recevoir. Il était délivré, même, il était sorti d'Égypte. Il était à la porte, il avait juste à rentrer et prendre possession, puis Dieu se proposait de leur donner. Là, Dieu leur a dit, envoyez 12 personnes aller explorer le pays. Il a envoyé un chef comme de chaque tribu. Il a envoyé 12 personnes. Puis là, on voit ça dans Nombre 13, le verset 30. Là, je vais vous le lire rapidement. Caleb, là, quand ils sont revenus, là, ils ont fait un rapport à Moïse et au peuple pour savoir qu'est-ce qu'on a vu dans cette terre promise-là. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que là, ça critiquait. Qu'est-ce qu'ils ont pu bien en voir ou entendre qui les a amenés à critiquer? Il dit, montons, là, Caleb qui dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Pourquoi qu'il disait ça? Parce que Dieu leur avait promis à plusieurs reprises qu'il était pour leur donner la terre promise. Oui. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Puis nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et pleura, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes morts dans le désert et que nous ne sommes pas morts. » Il dit, que sommes-nous morts dans le désert, dans le pays d'Égypte? Et que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Et que nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Puis ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef, retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Puis parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, puis parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. » C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils vous serviront de pâture, puis ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Puis l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Là, j'ai lu une longue histoire, là, mais c'est une histoire qui est... Pardon? est bonne, est vraie, puis en même temps est un peu épeurante. Parce que la promesse était donnée, Dieu est en train de le faire, il voulait juste entendre que les 12 reviennent, puis dire, on est rendu, puis c'est en plein ce que Dieu nous avait promis, puis Dieu va nous le donner, parce que Dieu compte pas de menterie. Ce que Dieu a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. Puis au lieu de s'accaparer aux promesses, ils ont regardé aux circonstances. Ça marchera jamais. On ne sera pas capable d'entrer là. On va se faire détruire. Puis on, nos enfants, même, as-tu pensé? Ils vont devenir la proie de tous ces géants-là. Toute la... Là, au lieu de confesser que Dieu était avec eux, Dieu venait de faire des miracles comme personne sur la terre a vu les 10 plaies d'Égypte. Là. C'est des miracles incroyables. Ils nous avaient montré qu'il était avec eux. Il a ouvert la mer, toute la patente. Puis il arrive sur le bord de la porte, puis il avait aucune confiance que Dieu t'a pour les ouvrir le chemin. Que Dieu t'a pour être avec eux. Josué et Caleb, ils voyaient avec foi. Il dit, ce peuple-là, il n'y a même plus d'ombrage pour eux. Il n'y a plus de possibilité de se cacher. Dieu les voit, puis Dieu va nous les donner. Puis on va avoir la victoire, puis on va l'avoir le terrain. Eux marchaient avec la foi, puis les autres confessaient leurs peurs, leurs craintes, leurs incrédulités, en fin de compte. Puis est là le problème, frères et sœurs. Les promesses de Dieu du Nouveau Testament sont les mêmes que les promesses dans l'Ancien. Puis Dieu veut qu'on les accapare par la foi, qu'on y confesse, puis on se le dit, « Dieu va me guérir ». Dieu l'a promis, puis je mets ma confiance que Dieu va me guérir. Puis là, tu pries Dieu, Seigneur, je veux que je puisse obtenir grâce. Comme les ceux qui allaient à Jésus, là, je suis pas venu pour donner ma nourriture aux petits chiens. Ouais, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Il dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ça qu'il veut voir, le Seigneur, les gens qui veulent les promesses, puis il va le faire. Mais si on imite les enfants d'Israël, incrédules, Dieu n'est pas content. On ne croit pas à sa parole. On ne croit pas qu'il veut faire cela. Sommes-nous sûrs qu'on est sauvés? La foi, là, c'est toujours relatif. Oui, on croit que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Oui, on croit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons accès à pouvoir recevoir des guérisons. Je dis pas que vous allez être tous guéris aujourd'hui. Mais vous n'avez pas le droit de vous empêcher de le recevoir. Puis quand on parle avec quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui a besoin d'aide, prions avec lui pour obtenir ce secours-là qui vient de la part de Dieu. Puis Dieu va le faire parce que Dieu nous aime. Puis il aime ses enfants, puis il veut prendre soin de ses enfants. Y a-t-il un père que ça lui fait plaisir de battre ses enfants? Oui, il y en a. Mais pas Dieu. Ouais, c'est pas la majorité. Dieu est amour. Puis il veut notre bien. Puis il l'a promis, puis quand il promet de quoi? Il tient sa promesse. Là, il faut s'approcher de Dieu avec foi. Osée 6, 1, ça nous dit, « Venons, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » C'est les temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Les rafraîchissements, c'est pas juste la joie, c'est une partie. La guérison de ton cœur, ton âme, ton corps, Dieu veut te donner sa pluie comme la pluie du printemps. Mais il faut parler avec foi comme c'est écrit là. Que ce soit le diable qui t'ait rendu malade, que ce soit des conséquences naturelles que tu sois malade, il n'y a pas de différence pour Dieu, même si ça sera à cause d'un péché. Qu'est-ce qu'on fait si c'est un péché? Mais allons quand même au trône de la grâce Ça nous dit dans Jacques, justement, quand ça pourrait être un péché, au chapitre 5, le verset 14, « Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qui appelle les anciens de l'Église, puis les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. » La prière de la foi sauvera le malade. Puis le Seigneur le relèvera. Puis s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire, on n'a pas d'excuse dans un sens pour dire, « Ah, mais j'ai péché. » Même si tu as péché, vas-y puis confesse-le ton péché. Dieu va te pardonner, puis la prière de la foi va sauver le malade. Mais ça dit de le confesser. Si tu restes en cachette, puis tu continues à le pratiquer, puis tu veux pas t'en sortir, c'est sûr que là, ça va avoir du temps avant que ça s'accomplisse. Puis là, ça nous dit au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Pourquoi vous pensez que j'ai prêché ce message-là? Parce que c'est des paroles de foi qu'on va entendre. Des choses, la parole de Dieu, des promesses. Puis j'ai cru, c'est pour ça j'ai parlé. Dieu veut nous amener à être comme ça. Croire, c'est écrit, ça fait partie de la vérité de la Bible. Je le prends, puis je le veux. Je veux le vivre. Y a-t-il des amen à cela?
Amen.
On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les versets qui nous enseignent ton désir de vouloir prendre soin de nous. Parce que Jésus a tout payé à la croix afin que je puisse être non seulement pardonné, mais être guéri dans mon être tout entier. Je te remercie de cet accès du trône de la grâce pour pouvoir être secouru, pour obtenir miséricorde et pouvoir trouver grâce. Merci de cet accès que tu nous donnes de pouvoir te prier, de remettre nos problèmes entre tes mains et te faire confiance. Augmente notre foi, Seigneur, qu'on puisse aussi, comme nous dit dans Jacques, prier les uns pour les autres avec foi, parce que c'est la prière de foi qui va sauver le malade. Augmente notre foi, Seigneur, c'est ce qu'on a besoin, qu'on puisse voir les signes, les prodiges, les miracles que tu as promis dans ta parole. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.